Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International, dans cette émission consacrée en grande partie à la Ligue des Champions qui nous régale, qui peut aussi parfois nous énerver. En tout cas, ce soir, eh bien, vous aurez rendez-vous avec nous après le match qui sera retransmis d'ailleurs sur l'antenne entre Monaco et Dortmund, retransmis par Eric Mamrut et par Stéphane Burgat. Pour l'instant, nous allons donc nous consacrer à la perspective de cette soirée. Une soirée qui sacrera donc peut-être les équipes qui ont pris l'avantage au match aller, comme Monaco et la Juve, ou bien les rencontres permettront-elles des retournements de situation ? C'est ce qu'on verra, évidemment. Le Borussia Dortmund avec Pierre-Emerick Aubameyang et surtout le retour de Marco Reus a bien des arguments pour refaire son retard au stade Louis II et changer le cours des choses. Le Barça ne manque pas non plus d'arguments. Sa MSM peut bien sûr effectuer une remontada, comme elle l'a déjà fait. Mais la défense de la Juventus craquera-t-elle alors qu'elle est la meilleure de la compétition? Luis Enrique y croit et nous vous en dirons plus. Hier soir, du 100% pour les clubs madrilènes, le Real et l'Atlético ont obtenu leur qualification pour les demi-finales. Une habitude pour ces deux clubs espagnols, mais les erreurs d'arbitrage ont provoqué une grande polémique, notamment en Allemagne, entachant l'issue d'un match de très haut niveau entre deux grandes équipes, entre le Real et le Bayern, où un homme, un buteur, a passé le seuil des 100 buts en Ligue des Champions. Et cet homme, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. Le PSG toujours en piste pour être champion de la Ligue 1 grâce à un sursaut de fin de rencontre. Les Parisiens ont battu Metz et restent en course donc pour le titre de champion de France 2017. Il reste 7 matchs et beaucoup de suspense autour du podium de la Ligue 1. Et quelqu'un nous parlera de ce PSG notamment, ça faisait longtemps. Bruno Salomon, bonjour.
Trop longtemps, bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous, heureux de revenir.
Ça nous manquait vos goals interminables hier.
Hier soir, je peux vous dire une chose, le troisième. Parce que franchement, ils ont été scandaleux hier soir, mais vraiment.
Sur France Bleu Paris.
On va en parler.
Gardez vos armes, on va en parler. Il y a aussi Naïm Moniol, bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis Jean-Marie Lanoë de France Football, bonjour Jean-Marie.
Bonjour RFI, ça pèse.
Ça pèse. Oui. C'est le nouvel argument.
Il faut évoluer un peu.
Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous allez nous aider dans toute cette cour d'avis contraires et variés. Radio Foot, c'est parti. Deux équipes en ballotage favorable et deux équipes adverses condamnées à l'exploit. Ainsi peut-on résumer les enjeux de cette dernière soirée de quart de finale de Ligue des Champions. Deux équipes abordent en effet leur match retour avec un avantage sur la possible qualification. Monaco qui a gagné à Dortmund d'un but son match contre le Borussia, d'un but de plus bien sûr, et la Juventus qui a infligé à Barcelone un sévère 3-0. Les Monégasques et les Turinois doivent-ils pour autant se sentir hors de danger? Alors évidemment non, et commençons par Monaco qui disputera sur son rocher une place en demi-finale comme en 2004. On se souvient du contexte par contre du match aller la semaine dernière, des explosions contre le bus du Borussia qui avait empêché le match de se tenir alors que le défenseur des jaunes et noirs, Marc Bartra, était blessé, opéré et toujours indisponible. L'entraîneur de Dortmund, Thomas Tuchel, l'a dit hier et il explique que l'état d'esprit de ses joueurs est bon.
Nous avons évacué les événements du match aller. Nous allons contrôler nos émotions et être concentrés sur cette rencontre. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière nous a rendus encore plus forts et je suis convaincu que nous pouvons nous qualifier. Il nous faut l'emporter par 2 buts d'écart. Notre objectif est de nous créer le plus d'occasions possible, de les convertir en buts, d'attaquer durant 90 minutes.
Les propos de l'entraîneur allemand étaient-ils en harmonie, on va dire, avec tous ceux qui ont été tenus en conférence de presse d'avant-match? Et bien, c'est la question qu'on va poser à Eric Mamrut, qui est sur le chemin du stade déjà. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors, en direct de la Côte d'Azur, Eric, vous qui étiez donc à ces conférences de presse d'avant-match hier, est-ce que vous avez eu la sensation que ces événements, comme le dit Tuchel, étaient évacués, qu'on allait assister à un retour normal, ou alors qu'un fantôme est toujours au-dessus de Louis II?
Il y a peut-être un fantôme, parce qu'évidemment, ça reste encore assez frais, évidemment, ça fait à peine une semaine, et forcément, n'importe qui n'a pas l'habitude d'être à côté d'une explosion, d'un attentat, donc C'est difficile d'effacer un tel traumatisme, mais on a l'impression que les joueurs, l'équipe commence à remonter la pente véritablement, à laisser ça derrière eux, à transformer les choses de manière positive. Tuchel l'a bien dit, relayé par Marco Reus, l'attaquant de Dortmund, ça a eu pour effet de renforcer le groupe. Ils sont plus solidaires, plus unis, plus à l'écoute les uns des autres. Ils ont échangé leurs émotions. Et ça, ça leur a apparemment donné, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, une force supplémentaire. Et puis on a vu ce week-end en Bundesliga, eh bien ils ont réussi à gagner un match, à jouer un match en entier, en tout cas en étant totalement à fond dedans et à le gagner contre Francfort. 3-1, preuve que quand même ça va mieux. Et certains joueurs l'ont dit après, ça nous a fait du bien de jouer, de penser à autre chose et d'évacuer tout ça et de transformer tout ça en positif. Donc on sent que petit à petit, ils laissent ça derrière eux, ils le transforment et ils abordent ce rendez-vous monégasque avec vraiment de l'envie, de la détermination et même de l'optimisme.
Alors du côté de Monaco, comment vous sont apparus l'entraîneur Jardine et je crois que c'était Falcao qui était aussi. Est-ce que cette peut-être union dans l'épreuve effraie les Monégasques ?
On ne peut pas dire que ça les effraie. Évidemment, ils sont sur leur garde. Radamel Falcao, bon, évidemment, il n'allait pas dire on est déjà qualifié, on a 96% de chances d'après les statistiques de passer. C'est facile, évidemment. Bon, il y a eu un précédent avec PSG Barcelone. Rien n'est jamais acquis maintenant, on le sait.
Et oui.
Mais il se montre très très prudent, évidemment. Jardim, lui, il n'est pas du genre très expansif, évidemment. On dirait Droupi. Leonardo Jardim, donc un avion s'écrase sur ses chaussures, ça lui ferait le même effet, je pense que. Donc on a eu le droit à 7 minutes de conférence de presse de Jardim, il a dit, en tout cas, méfiance, Dortmund est plus fort qu'à l'aller, et bon évidemment c'est pas difficile à dire ça, vu l'état dans lequel étaient les joueurs allemands au match aller, là forcément ils seront plus forts et ils vont devoir se méfier les Monégasques qui n'ont pas fait mention à ce souvenir d'il y a 2 ans lorsque contre Arsenal en 8e de finale de Ligue des Champions ils étaient allés gagner à Londres 3-1 et au retour eh bien ils avaient toutes les peines du monde, ils s'étaient inclinés 2-0 en se qualifiant in extremis. Donc on va voir si cette position du chassé cette fois eh bien peut leur convenir. On a vu contre Manchester City ils étaient dans la position du chasseur, ils avaient réussi à renverser la tendance. Là, la chose est complètement inversée. Donc, méfiance vraiment du côté des Monégasques.
Bien, merci Eric Mamrut. On vous laisse continuer avec Stéphane Burgat vers le Placide Leonardo Jardim et le stade Louis II, où les 18 000 et quelques places seront occupées ce soir pour assister à ce match retour de quart de finale de Ligue des Champions. À tout à l'heure, Eric, puisque vous serez sur l'antenne à partir de 20h40, heure de Paris, pour commenter ce match sur RFI. À tout à l'heure. Merci.
Il est déjà pressé d'aller au match, en fait.
Il a déjà dû raccrocher. En tout cas, comment voyez-vous cette rencontre? Parce qu'il y a cette ambiance, on va dire, pour toile de fond. Est-ce que ça peut... On sait déjà que finalement, cet aller-retour, il aura quand même été entaché de quelque chose d'inhabituel, Bruno.
Effectivement, mais je crois qu'Eric a bien fait de souligner que cette équipe de Monaco ferait bien d'être sur ses gardes, parce que pour avoir regardé le match de Dortmund face à Francfort...
Ils ont gagné durant le week-end.
Autour de Bartra, on se retrouve avec des joueurs qui tendent son maillot, qui portent le maillot. Et j'ai entendu Tuchel hier pour la conférence de presse qui est venu nous dire... Moi, je veux 90 minutes de match offensif. Il veut tout envoyer. En gros, il veut dire à ses joueurs, allez, on y va. Et si vous jouez un peu le ressort psychologique, un entraîneur, on sent que cette équipe est capable. Elle défend peut-être pas bien. Peut-être que son bloc défensif défend pas bien. Elle va peut-être prendre des buts. Mais je vous rappelle que de toute façon, faut pas qu'il gagne 1-0, faut pas qu'il gagne 2-1. Il faut qu'ils envoient au minimum à 3-2 et qu'ils embarquent à 4-2. Donc, en termes de calcul, il y a pas de calcul à se poser. Et j'ai peur que cette équipe de Monaco se fasse peut-être embarquer par cette équipe de Dortmund qui s'est fédérée. Il y a eu le choc, il y a eu voilà ce moment terrible et ils sont en train de se redresser, ils vont se redresser par le football et c'est ouvert. Pour moi, finalement, c'est plus du 50-50 que du 60-40.
Ouais, c'est vrai, moi je suis d'accord Naïm. Avec Bruno, c'est très ouvert. D'abord, faut se rappeler de la deuxième mi-temps du match aller qui avait été nettement nettement meilleure que la première. La première, ils étaient au vestiaire.
Ils étaient ailleurs.
Pour tous pour toutes les raisons qu'on a évoquées. La deuxième, ils ont été vraiment meilleurs. Sur ce match-là, ils ont absolument rien à perdre. Ils récupèrent Marco Reus. On sait que le duel extérieur compte double, et puis faut quand même ne pas oublier quelque chose, la victoire de Monaco a éclipsé un phénomène que moi j'avais souligné, Monaco avait un gros creux physique au match aller, 45.
Comme on avait vu lors de la confrontation avec Manchester City.
Oui, alors moi c'est ce que je souligne, c'est que contre Manchester City, que ce soit l'aller ou retour, il y a eu une énorme débauche d'énergie en première mi-temps. Moi je comprenais le trou en deuxième. Sur le match, sur la première mi-temps contre Dortmund, c'est absolument pas le cas. Ils avaient joué vraiment avec un rythme beaucoup moins intense, les latéraux bontaient beaucoup moins parce que c'était ni Mendy ni Sidibé. Donc voilà, moi j'avais souligné ça, j'avais dit méfiance au match retour, ça peut peser. Donc voilà.
J'ajoute qu'en championnat, indépendamment des résultats qu'ils obtiennent à l'arraché, ils sont nettement moins convaincants, peut-être à cause de cette fatigue physique depuis de longues semaines.
Ils ont un mois et demi de compétition plus que les autres.
Justement.
Donc, je partage votre avis.
La question autour de Monaco, sans doute, puisqu'il y a quand même un exploit de renouer avec une demi-finale en ligne de mire. Comment Leonardo Jardim va-t-il gérer finalement l'enjeu Alejandro? Est-ce qu'il va simplement se dire, bon, l'équipe a un but d'avance et on est prudent, ou un peu comme on a déjà vu à Manchester City et tout ça, vraiment à l'attaque et on lâche les attaquants.
Je pense qu'il
n'a
pas trop le choix. Il a un groupe de joueurs qui est quand même restreint. Il a fait tourner du mieux qu'il a pu ce week-end, mais quand même pas autant qu'il l'aurait voulu. C'est pas le Real Madrid à ces niveaux-là. Il y a un effectif beaucoup plus limité, des joueurs blessés.
Un peu comme le Barça.
Donc il faut qu'il, à mon avis, c'est la solution passe par les collectifs. C'est individuellement, les joueurs vont laisser des forces. Beaucoup n'auront pas la force de faire 90 minutes pleines. Donc il faudra que les collectifs soient soudés. Fabinho manque.
Sidibé,
est-ce
qu'il va mettre Almami Touré qui a été plutôt bon au match aller ou Radji? Mais moi je crois que l'erreur à faire de Monaco, c'est, Eric le disait tout à l'heure, d'être dans une position de chassé. Si Monaco veut jouer la gestion, veut être attentiste et attendre que ça marche, ils vont se faire prendre. Monaco une équipe
mais c'est pas leur genre, on peut dire aussi.
C'est pas leur genre, mais vous savez, allez savoir comment on aborde un match comme ça.
Quand t'es fatigué, t'as tendance à jouer contre avec Mbappé.
Mais je pense que ça serait vraiment la pire des choses pour Monaco, c'est d'attendre le Borussia.
Bruno, ils sont fatigués, mais en même temps, ils ont un capital jeunesse qui peut peut-être leur permettre de surmonter cette fatigue.
Annie, et je vais faire un tout petit parallèle avec le Paris Saint-Germain, on en parlera tout à l'heure, mais au PSG, ils croient dur comme fer que cette jeunesse va coûter à Monaco sur le sprint final. Et cette jeunesse, elle commence à voir les étoiles. Cette jeunesse, on commence à leur dire, tu sais quoi, tu touches 80 000 euros par mois, et bientôt tu vas toucher 300, 400, 500 000. On commence, on est en quart de finale, on commence à avancer, l'air se raréfie, on est de plus en plus starifié. Je vous rappelle qu'on est sur un rocher où il n'y a aucune pression depuis des mois et des semaines, que personne les embête, mais là on leur parle de titre de champion de France, on leur parle de demi-finale de Ligue des Champions. Comment vont-ils gérer cette pression? Est-ce qu'ils sont capables? Là, on a une équipe en phase 2, en plus un épouvantail.
Mais jusqu'à présent, vous avez eu l'impression que la pression avait
aucune,
un effet sur eux?
Il y a zéro pression. Je discutais avec un journaliste que chalut, s'il nous écoute, Mathieu Faure de Nice Matin sur Foot, qui suit Monaco à la saison. Il me dit, mais ils perdent en finale de Coupe de la Ligue face à Paris. Ils rentrent le lendemain, ils sont à la turbille, il y a trois journalistes et personne ne leur en parle. Alors, tout le monde leur tape sur les boules en disant, c'est pas grave, on passe à
et Sousson. D'ailleurs, on voit qu'après, c'est pas grave parce qu'ils continuent à avoir des bons résultats.
Et voilà, mais c'est qu'il n'y a pas de pression. Mais là, cette fois-ci, la pression arrive autour de ce groupe. Mais c'est normal. C'est normal et la jeunesse va peut-être péricliter. En tout cas, il va y avoir un souci. Et moi, l'absence de Fabinho est un fait majeur ce soir pour cette équipe. Il est le point central.
Il l'avait été d'ailleurs avant.
Tout à fait, mais là, il est le point central de cette équipe et ça pose un petit peu problème.
Il y a un retour quand même important dans les rangs de Monaco, c'est celui de Falcao qui était absent en Allemagne. On a vu qu'il a répondu plus que présent au cours du week-end dans le match face à Dijon et il faudra compter avec l'attaquant colombien.
On a fait un grand pas, nous avons l'avantage, nous en sommes conscients. Mais ce serait une erreur de penser que nous sommes déjà qualifiés. Ce n'est pas le cas. Nous allons jouer ce match avec la même détermination et le même appétit que nous l'avons fait à Dortmund. Toute l'équipe est consciente que ce sera une finale. Nous n'allons pas déroger aux principes de jeu qui ont fait notre force cette saison. Et nous espérons rentrer à la maison avec une grande joie à l'arrivée.
pas de Falcao, Alejandro, mais pardon, pas de Fabinho, mais Falcao. Falcao qui marque, Falcao qui se bonifie quand même au fur et à mesure de ses entrées sur le terrain.
Bah, on aimerait retrouver le Falcao qu'on avait connu il y a plusieurs années. On a parfois l'impression qu'il est là, mais on sait que c'est un joueur fragile qui peut réussir quelques gros coups et qui peut aussi avoir des gros soucis à la fois physiques.
Il peut manquer un pénalty et marquer un but juste derrière.
Voilà, hein. Absolument. Donc, moi, je miserais pas beaucoup sur un Falcao exceptionnel d'ici la fin de la saison. Donc,
mais une chose, je me permets sur Falcao, il faut. J'aime le rôle qu'il a pris. C'est-à-dire qu'on a eu, on a perdu Falcao pendant 2 ans et j'aime le rôle de grand frère qu'il a accepté de prendre dans cette équipe. Il est le capitaine. Il fait passer des ondes positives à sa jeune génération. Effectivement, on ne peut plus s'appuyer que sur lui. C'est pas lui qui va faire. Mais à des moments, effectivement, contre Dijon, il prend les clés du camion, il en met deux, on n'en parle plus. Il y a une image à Angers qui m'a marqué.
Combien de fois il va sauver l'équipe? Il y a quand même chaque match maintenant, c'est une finale et ça
c'est
va être compliqué.
Ça va être compliqué.
Mais il sera peut-être au rendez-vous. Est-ce que il s'entend bien sur le terrain avec Mbappé?
Sa complémentarité pour l'instant n'a pas sauté aux yeux. Je partage assez la. David Alejandro sur le rôle de Falcao. J'ai quelques réserves. Il a mis 2 coups francs. Ok, c'était Dijon. Hein, c'était pas Dortmund. C'est pas la Ligue des Champions. C'est sûr qu'il doit rassurer par sa présence ses coéquipiers, mais.
Faut quand même voir un truc, c'est que c'est la seule star internationale de cette équipe. Et moi, je pense que même s'il est moins bon, même s'il est plus fragile,
le
fait d'être aligné sur un terrain, quand t'es dans la tête de mecs comme Ginter, comme Sokratis, que t'as Falcao en face de toi, t'as quand même plutôt la tendance à aller sur lui. Tu penses que ce genre de mec sur un match comme ça, il peut attirer 1-2 défenseurs et permettre aux autres de jouer, que ce soit Mbappé, que ce soit Bernardo, que ce soit Germain quand il rentrera, Dirard. Lui, il est quand même sur le terrain, il attire 1-2-3 joueurs sur lui.
Et c'est marrant, il est plus complémentaire avec Germain qu'avec Mbappé.
Je pense que Germain, il pourrait jouer avec tout le monde. Il est formidable.
Moi, j'adore ce joueur.
J'adore.
Alors tout à l'heure, Naïm, vous faisiez allusion au retour de Marco Reus. On va l'entendre, Marco Reus, parce que évidemment, il est de retour. Apparemment, lui aussi, plutôt en forme et il pense qu'il peut aider à rattraper le retard.
Le résultat du match aller n'est pas favorable pour nous, mais on a la capacité pour inverser la situation. On se doit d'y croire. Cette blessure a duré 6 semaines et maintenant je vais bien et je me sens prêt à aider l'équipe. De toute façon, en Ligue des Champions, il n'y a pas besoin de préparation particulière et on va rester concentré sur le match.
Hier, on avait parlé du retour de Robert Lewandowski dans les rues du Bayern. Dans les rues.
Vous avez des infos
dans l'impasse du Bayern. Il était
un peu à la rue quand même hier.
Mais il était effectivement, même s'il a inscrit un but, cette fois-ci, on a Marco Reus qui revient dans les rangs, et pas dans les rues, dans les rangs de Dortmund. Peut-il être lui aussi essentiel?
Excellente nouvelle. Marco Reus est un joueur de grand talent. Alors lui aussi extrêmement fragile. Je pense que s'il n'était
blessé,
pas, il serait à mon avis plus à Dortmund depuis un moment. Extrêmement fort, extrêmement rapide, très bon ballon pied et surtout lui, il a une vraie complémentarité avec Aubameyang. C'est-à-dire que Aubameyang, on l'a beaucoup critiqué au match aller, a peut-être pas fait son meilleur match dans l'efficacité, mais au moins dans l'abattage, il y avait donné quelque chose. Là, avec Marco Reus à ses côtés, on va revoir le vrai Aubameyang qu'on voit en championnat, qu'on a vu la saison dernière. Il y a une vraie complémentarité entre les deux, c'est une excellente nouvelle pour Dortmund.
Non, je voulais juste rajouter, je pensais à Aubameyang parce que en fait la petite rumeur du côté de Dortmund hier, c'était que si jamais il partait, le Gabonais, pour un autre club, la grosse piste de Dortmund, c'est la Lacazette. Voilà, c'était juste pour tirer.
Sur Marco Reus, c'est sur un effet dans le groupe de Dortmund.
Ah bah ça c'est sûr. Hein,
c'est un élément de plus dans la vitesse de cette équipe portée sur l'attaque.
Aubameyang lui doit beaucoup. Enfin, non, c'est pas qu'il lui doive beaucoup, mais il est meilleur Aubameyang quand Reus est là. Ça c'est Reus est complémentaire de tout le monde, globalement.
Ah oui, c'est une carte.
Alors,
il
est souvent blessé, mais là, c'est pas une bonne nouvelle pour Monaco, ça, c'est sûr.
Bon, 90 minutes à l'attaque, Alejandro, c'est un sacré défi quand même.
Bah, ça va être un match assez spectaculaire, je pense. Il y aura beaucoup de buts, peut-être des deux côtés. Et à mon avis, un pronostic incertain.
Au match aller, on s'attendait à beaucoup de buts, on en avait quand même
avec
5.
Avec un stade pas plus grand que la seule tribune où il y a le mur jaune.
Oui, bah oui, mais peut-être moins même, parce qu'il y en a 24 000 théoriquement. Voilà. Donc là, 18 000 dans le stade.
Ça va pas les déranger, le Borussia.
C'est la fin de la première partie de Radio Foot. Restez avec nous, on se retrouve juste après les infos.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI, toujours avec nos invités Jean-Marie Lanoé, Bruno Salomon, Naïm Moniol et avec Alejandro Valente, El Jefe, qui n'est pas au Camp Nou ce soir, qui aimerait peut-être bien y être, parce que si on espère du spectacle à Louis II, on en espère ou on en imagine aussi au Camp Nou, le théâtre peut-être d'un autre match, un nouveau match mémorable, Alejandro. Alors tout est possible avec le Barça, on le sait, et d'ailleurs, les 3 buts d'avance de la Juventus de Turin, peut-être qu'ils ne pèseront pas lourd si l'équipe de Luis Enrique réussit un match parfait, un match exceptionnel avec l'effectif qu'il a. En tout cas, Luis Enrique ose évoquer une nouvelle remontada. On s'est habitué au mot désormais, qui déjouerait tous les pronostics.
Ce sera un match retour similaire au PSG avec moins de buts. Ce n'est plus 5 buts à marquer, mais 4. Après, connaissant la Juve, ils vont se créer des occasions. Et s'ils marquent, alors nous allons devoir en mettre 5. Ceux qui ont participé à la remontada du PSG auront une autre occasion de revivre une nouvelle nuit historique. Et on va tout faire pour rééditer cet exploit. Le Barça a montré que 3 buts en 3 minutes étaient possibles. Alors j'espère que l'on sera qualifié à la 95e minute. Vous savez, la qualif, j'y crois encore plus que contre le PSG. Si nous marquons le premier but, alors le Camp Nou nous aidera pour le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Et le tercero cae
solo. Alors en plus, dans ce studio, on a quelqu'un qui y était, cette fameuse remontada.
Oui, oui.
Bruno, vous étiez au Camp Nou.
Alors je suis désolé pour Luis Enrique, mais alors autant j'y croyais déjà pas pour le Paris Saint-Germain, même,
bah
si,
oui,
c'est
marqué,
si, même si c'est marqué dans l'ADN du Paris Saint-Germain que c'est un club qui est capable de prendre des choses comme ça. Mais là, très franchement, je vois pas Buffon craquer. C'est pas Kevin Trapp, c'est Gianluigi Buffon dans la cage. C'est une défense de fer. Je vois pas la Juve exploser comme le Paris Saint-Germain exploser. Et de toute façon, si cette équipe du Barça bascule vers l'avant, ce qu'elle va être obligée de faire, je lui conseille de bien serrer derrière,
parce que
je lui conseille de bien faire attention derrière, parce que ça va pas être la même mayonnaise avec.
La vraie question sur ce match, c'est pas est-ce que le Barça est capable de mettre 3 buts ou 4 buts à la Juve, c'est est-ce qu'il est capable de jouer la Juve 90 minutes sans en prendre un, parce que la défense est tellement d'une faiblesse.
Non, mais vous l'avez entendu, là, Luis Enrique, il imagine tellement qu'il peut en prendre un qu'il dit faut qu'on en mette 5.
Ah ben oui, non, mais évidemment, il est conscient du niveau défensif, parce que je rappelle que le match du PSG, on l'a éclipsé pour toutes les raisons qu'on connaît, mais le PSG, chaque fois qu'il est entré dans la moitié de terrain du Barça, c'est un but, un poteau de face à face, donc voilà, là, on sait que cette équipe derrière est faible, mais est-ce qu'il va refaire un 3-4-3 comme il avait fait contre Paris, est-ce qu'il va mettre une défense à 4 parce qu'il sait que devant c'est meilleur, je sais pas, mais cette équipe prend trop de buts de toute façon pour espérer faire quoi que ce soit, et je ne vois pas la Juve faire comme Paris, aller jouer au handball là-bas, être à 10 derrière, à regarder les mecs se passer la balle autour de la surface, donc j'y crois pas non plus.
Et si jamais il y a un moment de flottement les 7 dernières minutes, je n'imagine pas quand on voit les noms à la Juventus Turin, je n'imagine pas des garçons se liquéfier comme les Verratti, Marquinhos, Rabiot qui dans les 7 dernières minutes sont devenus des tout petits garçons face à des adultes. Je crois que c'est pas dans l'ADN de la Juventus Turin.
Et avec un certain arbitrage, puisqu'on parlera aussi de l'arbitrage.
C'est ce que je voulais dire.
Allez-y, Jean-Marie.
Ah ouais, à moins qu'il y ait un arbitrage un peu comme celui du PSG. Alors, celui du PSG passait un peu inaperçu parce qu'il y a eu 6-1, donc on s'y intéresse moins.
Il y a eu sanction de l'arbitre.
Il y a eu quand même quelques décisions pour le moins avantageuses pour le club recevant, hein, El Jefe. Et donc, moi, je partage l'avis de nos amis, hein. Je vois pas du tout le Barça, compte tenu de ce qu'il démontre aussi, parce qu'il avait pas été bon contre le PSG non plus, quoi.
Mm-hmm. On a eu l'impression de revoir
avec une Juve qui a dû encaisser 2 buts sur l'ensemble de son œuvre en Ligue des Champions, j'ai du mal à l'imaginer, mais bon.
Alors vous le voyez, le petit sourire de
Je me fais moine si Barcelone s'est qualifié.
Vous prenez des risques, Jean-Marie, quand même. Parce qu'on a entendu les arguments qui ne croient pas à une remontada. Vous y croyez, vous, une remontada bis,
justement, vous disiez, il faudrait un match exceptionnel, mais Jean-Marie nous a rappelé que sans faire un match exceptionnel, ils ont réussi à marquer 6 buts au PSG. Alors, il faut qu'un certain nombre d'ingrédients soient réunis. Il faut, évidemment... Contre la Juve, il faudrait vraiment faire un match assez exceptionnel. Le Barça en est capable. Il faudrait aussi que la Juve soit dans un mauvais jour. Ça, c'est moins probable. Il faudrait que l'arbitre, effectivement, soit
souple sur le sifflet.
Soit assez généreux. Ce qui est peu probable vu ce qui s'est passé hier à Madrid.
Pour l'information, l'arbitre, ce sera Monsieur Kuipers, un néerlandais qui a arbitré Juventus-Lyon en phase de poule. Le 1 partout, il n'a pas arbitré le Barça cette saison.
Mais disons qu'après ce qui s'est passé hier, l'arbitre aujourd'hui, c'est un peu.
Il y a quand même un élément aussi qu'il faut prendre en compte quand on parle du Barça. C'est une équipe géniale. Il y a des individualités. Et si vous prenez les deux matchs du PSG, Messi, il n'a pas été bon quand même. Bah ça serait quand même pas mal que sur cette fin de saison, dans des matchs importants, Messi soit bon. Je rappelle qu'il y a un classico quand même dans 4-5 jours. Moi, qu'on critique Neymar pour son comportement, sur tout ce qu'on veut, je veux bien.
Enfin, moi, je veux bien que Messi ne soit pas bon, mais quand même, il est soulier d'or actuellement, meilleur buteur de la Ligue des Champions.
Oui, mais...
Le problème, c'est que Barcelone dépend trop de Messi. Cristiano Ronaldo peut être mauvais 80% des matchs, il marque quelques buts, il est au top. Messi, quand Messi est mauvais, Barcelone ne fonctionne pas.
Mais c'est si on doit faire un parallèle avec le Real Madrid, si on regarde bien entre le Real des huitièmes et des quarts face au Bayern, en fait, en gros, Cristiano Ronaldo, je pense que tous ses radio-réveils à la maison sont avec la petite sonnerie de la Ligue des Champions. Là, j'ai l'impression que Messi, sur les huitièmes et sur le quart, ne s'est toujours pas réveillé. Ça peut être ce soir. Il peut être monstrueux ce soir, remettre tout le monde d'accord en disant, écoutez, vous me parlez de Ronaldo, là, vous allez voir ce que je suis capable. Mais sur le match du PSG et sur le match aller face à la Juve, j'ai l'impression d'avoir un Messi agacé. Agaçant peut-être pour ses coéquipiers, voilà, et un peu noir, enfin, dans ce qu'il fait.
Justement, une question par rapport à la Juventus. Alors, cette Juventus, on connaît la meilleure défense. On sait aussi que Lionel Messi n'a jamais marqué de but à Gianluigi Buffon. Est-ce qu'elle doit avoir peur, cette Juventus?
Non.
Elle n'aura pas peur. Elle n'a pas peur. S'il y a bien une chose,
c'est
reprenons les propos juste avant le match aller.
De Bonucci, voilà.
Mais qui disait la remontada, ça se passera pas.
Avec une équipe italienne.
Donc, en fait, avant de mettre 3-0 au Barça, il vous annonce déjà, on vous annonce une chose. S'il nous arrive la même, voilà. En gros, il y en a.
Et alors, on doit le croire.
On connaît les Italiens quand même. Ils sont parfois un peu excessifs.
Alejandro, tu sais, vous savez, Réfé, que si jamais il faut aller mettre deux tartes, ce soir, un joueur sera capable de prendre un rouge pour calmer tout le monde. Ce que n'a pas fait le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand vous prenez l'eau, il y a un moment, mettre un coup, etc. Vous mettez la main, vous faites quelque chose. Vous essayez d'électriser votre groupe. Vous le savez très bien que du côté de la Juve, s'il faut en venir là, ils glisseront sur ce terrain-là parce qu'ils en sont capables.
Ils sont capables d'aller
au physique. Ok.
Je me fais moine. Donc,
ils peuvent avoir peur.
Mais on espère avoir un super match en tout cas.
On paiera pour vous, Jamal.
On espère avoir un super match. On peut attendre aussi beaucoup de Dybala, d'Higuain. Oui.
Ouais. Surtout de Dybala qui est monstrueux.
Doublé à l'aller.
Non, puis il est bon, il est efficace, il est dans une bonne dynamique. Alors. Il a marqué un doublé ce week-end, Higuain, il n'y a pas de problème, mais moi j'attends surtout de Dybala qui est la grande révélation de la Juve cette saison.
Enfin, il ne faut pas non plus faire monter Dybala plus haut que trop vite, hein, et comme on le fait en Argentine déjà où ça risque d'être contre-productif. Hein.
Je pense qu'en termes d'attaquant quand même cette saison, il fait partie des 2-3 qui vont affoler le marché des transferts, hein, parce qu'il est bon. Hein.
Allez, Alejandro Valente.
Oui. Toujours une préférence pour Messi. Tout ça parce qu'il va aller au Real.
Ça ne veut pas dire que ça risque de lui retomber. D'ailleurs, il est très prudent et il essaye à chaque fois de refroidir l'enthousiasme autour de lui. Et Dybala.
Bien, rendez-vous dans Radio Foot après les matchs pour avoir la réponse et surtout les commentaires. Hier soir, les deux clubs madrilènes se sont donc qualifiés, l'Atlético à Leicester, après un match nul qui avait fait suite à une victoire 1-0 à l'aller. Hier soir, c'était 1-1 du côté de Leicester. Et puis, ce qu'on peut souligner pour cet Atlético, c'est Colchoneros, c'est que c'est leur troisième demi-finale en 4 ans. Et il y a eu aussi 2 finales dans ces 4 ans. Il y a aussi donc la qualification du Real Madrid. Attendez Jean-Marie, on va vous la donner la parole. Habitué des sommets qui s'est aussi haussé donc en demi-finale, là quand même un record. C'est la 7e qualification consécutive de l'équipe, hein, de sa surtout déjà longue histoire dans cette compétition. Et tout cela, eh bien grâce notamment à un triplé, le triplé de Cristiano Ronaldo qui a établi lui aussi un nouveau record. Il est le premier buteur à inscrire 100 buts, même 101, en Ligue des Champions.
Viene el balón Casemiro, Casemiro en apertura, manda derecha para Carvajal, Carvajal con buena bola para Cristiano, remate, gol. Un buen criterio, no la quiere perder el Real Madrid. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo dentro del área para ejecutar, gol.
¡Vamos!
Viene Marcelo para el cuarto, Marcelo mételo para Cristiano, se acabó. ¡Gol! Marcelo por el medio.
Il s'emporte, hein, le commentateur. Il en appelle au grand nom de ce monde du football. Allô Messi, allô Maradona, allô Cristiano, tout simplement, peut-être, Bruno.
Ah, bah, désormais, appelez-le Cristiano simplement. Voilà, c'est même plus Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano. Il est au-dessus et je pense que pour son égo surdimensionné, ça, tout va bien, tout va très bien se passer. Voilà.
Mais il le mérite quand même. Il a un ego parce que il est alimenté, il est alimenté par son talent.
Il est alimenté effectivement par son talent. Mais hier soir, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour cette victoire du Real Madrid. Ouais. J'en suis désolé.
Je suis d'accord, on va y venir. Voilà, à ce problème.
Je glisse là-dessus.
Il parle pas de but hors jeu, bien sûr.
Oui, ce qui est tout à fait normal. Comme les commentateurs de Barcelone qui étaient à mes côtés il y a quelques semaines ne voyaient pas les erreurs de Monsieur Aitekin. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Ce qui est logique. Quand vous êtes dans le camp adverse, vous en profitez.
Jean-Marie, après quoi va courir encore Cristiano Ronaldo?
Après une statue qui lui ressemblerait. Parce que je souhaite à Messi d'avoir quelque chose de plus ressemblant. Donc ça, c'est un plantage en règle. Donc voilà, c'est la seule chose qu'il puisse poursuivre maintenant. Je veux dire, il dépasse tous les superlatifs. Il marque deux buts sur trois hors jeu. Il marque deux buts sur trois hors jeu, tout va bien pour lui.
Mm-hmm. Non mais je suis d'accord avec Naïm. Bruno et Jean-Marie sur les buts hors jeu, sur l'arbitrage maison. Maintenant, faut quand même saluer quelque chose. Oui. Au-delà des 3-4 ballons qu'il a goinfrés, qu'il aurait pu donner à Benzema ou Toni Kroos, sur une double confrontation où il est pas extraordinaire non plus, il en colle 5. Il faut se rappeler de la saison de Cristiano Ronaldo. Je crois qu'il a tout entendu. Il est trop vieux. Il a pas digéré l'euro. Il reste pas. Il va voir son copain au Maroc. Il a ceci, il a cela. Il est machin. Zidane le sort. Il est moins bon. Ouais, mais regardez ce qu'il fait dans les matchs décisifs.
Ouais, mais c'est justement ce que je voulais souligner.
C'est tout. Regardez ce qu'il fait dans les matchs décisifs. Oui, il y a deux buts hors jeu. Je l'ai vu. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Mais quand on colle 5 buts en 2 matchs au Bayern, avec quand même Manuel Neuer dans les buts, ça force le respect, bravo à lui.
Et Manuel Neuer qui a terminé avec un pied fracturé.
Oui, effectivement. Et saison terminée pour Manuel Neuer. Alejandro, vous n'avez pas un petit mot sur Cristiano Ronaldo?
Bah, que dire de plus, hein. Et effectivement, il a réussi ce qu'il voulait, à savoir franchir ce cap des 100 buts en Ligue des Champions avant Messi. Et il y est parvenu, c'est très bien pour lui.
Messi va en mettre 3 ce soir.
Mais après, connaissant le côté un peu Messi est capable de se dire allez, j'arrive, voilà, tu vas pas rester tout seul très longtemps, je vais juste te laisser 24 heures quoi.
Oui, mais ça pourrait être objet de motivation. On sait que c'est une émulation entre les deux. Alors on va y venir, messieurs, à ce dont vous parliez, c'est évidemment ce qui fait polémique aujourd'hui. Alors pas trop à la une des journaux espagnols, hein, par contre à la une de beaucoup de journaux européens, c'est l'arbitrage de Victor Kassai, cet arbitre hongrois qui a favoriser les merengues. Sur l'égalisation au début de prolongation, c'est donc ce premier des 3 buts de Cristiano qui est hors jeu. Le deuxième aussi, enfin le troisième.
Sur la chevauchée de Marcelo,
voilà,
le troisième but.
De Marcelo lorsqu'il lui offre ce but à son copain Cristiano. Et effectivement, en laissant en plus les Allemands à 10, ça c'était à la 84e minute lorsqu'il exclut Arturo Vidal. La question, est-ce que cela a faussé,
pardonnant le carton rouge à Casemiro.
Oui.
On va y venir sur les détails. Écoutons d'abord, parce que Carlo Ancelotti, on le connaît, et vous le connaissez bien, Bruno, gentleman. Eh bien là, le gentleman, il était furieux.
Malgré une bonne préparation, on méritait mieux à l'issue de ce quart. Les décisions de l'arbitre nous ont fortement pénalisés. Et pour Vidal, il n'y avait pas jaune. Il y avait hors-jeu sur les 2 buts de Ronaldo. Les décisions arbitrales restent humaines, mais là, sur un quart de finale, soit on met un meilleur arbitre, ou alors l'UEFA doit mettre la vidéo. C'est le moment. Il y a trop d'erreurs d'arbitrage, vraiment trop.
Alors on a un enchaînement effectivement d'erreurs d'arbitrage, pratiquement à partir de l'exclusion de Vidal et...
En 15 minutes, 4 décisions qui font que le match bascule. Hein. À ce moment-là, c'était l'égalité parfaite entre les deux équipes. L'incertitude était grande et effectivement, il y a la non-expulsion de Casemiro, l'expulsion de Vidal qui aurait pu être expulsé plus tôt, mais en tout cas, qui est expulsé sur une action où il n'y a même pas faute apparemment. Et puis les 2 buts hors-jeu.
Et un hors-jeu signalé à Lewandowski alors qu'il n'y est pas du tout.
Ouais. Oui. Pour revenir quelques heures, je suis déjà ravi que la France... un lendemain de match soit capable de parler de l'arbitrage, ce qui n'a pas été le cas pour le Paris Saint-Germain, puisqu'on est venu les fracasser avant de parler de l'élimination et de l'arbitrage qui était à contester. Mais ça, c'est pas grave, c'est bien aussi. Il y a un avant et un après France-Espagne avec la vidéo. Je suis désolé, l'UEFA ne peut plus faire marche arrière. Moi, j'en ai marre de lire le journal le matin et d'avoir vu un match extraordinaire. Ouais. 50 tirs, c'était un match d'une intensité folle. Là, je reviens pas sur PSG Barcelone avec un déséquilibre complet, une équipe qui se fait dessus, etc. Là, je vous parle de deux équipes qui ont mis jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 120e minute. Voilà, ils ont tout donné. Même. Et bilan des opérations, vous avez un quart d'heure avec un corps arbitral qui n'est pas capable d'être complémentaire, il n'y en a pas un pour sauver l'autre, et ils sont en train de sauver les gars. Qui se consultent pas.
À quoi servent les juges de ligne?
Ça sert à Barcelone pour cibler un seul pénalty avec
la c'est dingue.
Non, mais le problème, c'est que ça intervient un mois après le match de Barcelone, et là, on va encore se dire, voilà, c'est les clubs espagnols qui sont favorisés.
Bah oui,
Et le problème, c'est que, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que, tu prends le match d'hier, parce qu'une erreur, une soirée ratée, ça peut arriver à ce niveau-là, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais un mois après exactement la même soirée à Barcelone contre le PSG, ben écoute, qu'est-ce qui t'empêche dans un mois, si tu as le Real ou le Barça qui se qualifie, d'avoir encore la même chose? Et à la fin de la saison, on va dire, ah bah ouais, c'est un club espagnol qui a gagné, oui, c'est le meilleur championnat. Oui, le meilleur championnat, ils ont les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, tout ça. Ils ont comme aussi souvent l'arbitrage avec eux, dans des soirées comme ça, ça se voit.
Et après, tout à l'heure, on se posait la question de savoir ce qui s'était passé pour l'arbitre. Et j'en discutais, j'ai plus le nom du joueur, mais... Je pense pas c'est volontaire de la part des arbitres, mais je pense qu'il y a le poids du club. Un arbitre est un joueur de foot. Un arbitre est une personne qui aime le football et il va arbitrer à Bernabéu. Alors on doit lui faire la visite du musée, on l'accueille bien sûr. Je vous dis pas qu'on est pour des petits matchs, non. Et en fait, on le met bien. Et puis t'es Casemiro, je vais pas lui mettre le rouge. Bah si mon garçon, vas-y mets-le puisque t'as été capable de le faire pour Vidal. C'est pareil à Barcelone.
Mais en plus il a le poids du club. Il sort le carton et il le remet.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu vois le gars en train de faire hop et c'est que là il y a un gars dans l'oreillette qui fait non arrête pas maintenant. Cuidado. C'était pas ce qu'on avait prévu. Enfin, non mais c'est extraordinaire. Et je pense que c'est plus le poids et la force. Et ce qui est formidable, parce que tous les clubs rêveraient de ça.
Au match aller, il y avait eu une exclusion, c'était en la défaveur du Bayern, mais c'était l'équipe à domicile.
Oui, mais parce que le Bayern ne pèse peut-être pas dans l'état
d'esprit.
J'aimerais
avoir une stat comme ça, voilà, sur le nombre de pénaltys sifflés à domicile.
Jean-Marie, une bonne idée pour un article dans France Football.
Ouais, il faut faire des grosses recherches.
Oui.
Mais,
effectivement, croiser des chiffres, mais Opta l'a peut-être déjà s'apprête à le faire.
Mais c'est tellement dommage, parce que c'était vraiment une partie formidable. Voilà, on s'est régalé.
D'autant plus dommage, je suis d'accord avec toi, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que ça va créer une psychose sur les prochains matchs. Voilà. C'est ça le truc, parce que dans 15
peut-être
jours,
ce soir, tout à l'heure pour Barcelone.
Sur Barcelone, ce soir, tu vas vraiment scruter l'arbitrage. Et si dans 15 jours, 3 semaines, le Real ou le Barça reçoivent à nouveau, tu vas encore regarder l'arbitre et au premier coup de sifflet, la première faute, tu vas regarder vraiment. Et ça va créer une ambiance de merde autour des matchs.
Ce qui est bien dommage.
Mais de toute façon, on est dans un moment où l'arbitrage vidéo est sur le point d'arriver.
Ah, il faudrait qu'il soit là déjà depuis un moment.
Et puis il faudra mettre la vidéo presque sur la face, la cadrer sur l'arbitre pour voir s'il a raison de filer un deuxième carton jaune. Non, ça devient hallucinant.
Sur l'un des hors-jeux, un arbitre qui a plus de 2 mètres, voire 3 mètres de retard sur la ligne de hors-jeu, ce n'est pas normal.
Parce que sur un contact, c'est compliqué. Peut-être la vidéo ne va pas résoudre. Mmh. Mais les hors-jeux, c'est inimaginable.
C'est un jeu d'un mètre.
Sauf que l'arbitre, si tu regardes bien sur l'alignement, il a 3 mètres de retard. Et le gars est en retard. Il peut même pas regarder. Et donc, il fait au jugé. Tiens, je vais... vas-y. Mais c'est pas possible. Et à un moment donné, si l'UEFA ne prend pas la... Mais j'ai l'impression qu'ils la prendront pas la main. C'est ce qui me rend fou. C'est que finalement, on voit pas le dossier sortir. Alors, est-ce que ça va peut-être permettre... Est-ce que les Allemands ont assez de poids pour peser à l'UEFA et dire, bon, maintenant, on arrête et on arrête ce genre de bêtises.
Était furieux aussi, hein.
Ah oui, mais c'est compréhensible.
On s'est fait voler.
Il y a un enjeu financier aussi pour les clubs.
C'est ce qu'a dit Ribéry aussi. Il a écrit via les réseaux sociaux.
Pour ça qu'il est allé sur les réseaux sociaux.
Un an de dur travail. Merci et bravo, l'arbitre.
Mais c'est terrible parce que c'est pas bon aussi pour les arbitres. C'est pas bon aussi pour la corporation des arbitres. C'est aussi remettre en cause des gens qui sont importants pour un match de foot. Nous, tous les dimanches, on va dire à nos gamins, arrêtez de vous en prendre à l'arbitre. Mais qu'est-ce que tu veux pas t'en prendre à l'arbitre quand tu vois des choses pareilles?
En quart de finale, quoi. C'est inouï d'avoir un arbitrage aussi faible. Enfin, autant d'erreurs pour un match comme ça. Enfin,
C'est usant, hein.
Ouais. Eh bien, ce soir, Alejandro, plus que Messi, on va regarder l'arbitre, alors.
Voilà, c'est pas bon pour le Barcelone, ça.
Mais c'est terrible, ça, à se dire. On est compte, c'est se dire, on va regarder l'arbitre. Mais je suis content que les médias français, aujourd'hui, depuis ce matin, s'intéressent à l'arbitrage, qu'un club français était victime de l'arbitrage et que ça, on en a parlé 48, voire 72 heures après.
C'est le 6-5.
On en parle beaucoup.
C'est l'écart.
Oui, c'est
l'écart,
ça. Mais tu as raison.
Complètement anesthésié.
Et c'est le match aussi, le non-match du PSG.
Oui, oui.
Bon, il y avait eu plusieurs choses quand même. Vous parlez du PSG? Allez, on y va. Parce que le PSG, il aime à se faire peur, il aime avoir peur, lui, contrairement à la Juventus de Turin. Alors hier, c'était à Metz, au beau stade Saint-Symphorien, une super ambiance, du beau soleil, et puis des Parisiens qui ont failli, on va dire, ruiner leur chance de continuer à disputer le titre de la Ligue 1, c'est ça, Bruno?
Un Paris Saint-Germain suffisant, j'étais au stade Saint-Symphorien hier, on a un Paris Saint-Germain qui était plutôt, je vous dis bien, appliqué sur la première
mi-temps. À la mi-temps, il mène 2-0.
Voilà, mène 2-0 assez
on
tranquillement.
Dit 4-0 au bout de 80 minutes, bah non.
Non, c'est même pas 4-0, c'est que si ce Paris Saint-Germain, je le disais en antenne tout à l'heure à Jean-Marie et Naïm, c'est qu'il y a un moment, ce PSG, si juste il travaille en poussant un tout petit peu, cette équipe de Metz ne jouait pas. Cette équipe de Metz avait mis son équipe C. On avait mis un gardien international japonais.
34 ans.
Voilà, 34 ans qui avait le premier match de Ligue 1. Enfin, voilà, c'était idéal, 2-0, et en fait ce Paris Saint-Germain revient en deuxième mi-temps, a mis ses charentaises, tranquille, et ne respecte pas l'adversaire. Et ce PSG se fait peur sur un très beau coup franc de Yohan Jouffre à la 78e minute de jeu, et l'entrée de Cheikh Diabaté, qui est le héros du stade, je vous jure, je l'ai vu sortir même avec le 3-2, il est sorti sous les vivas du public Saint-Symphorien, il est adulé là-bas du côté de Saint-Symphorien, il est tellement raillé par une partie de la presse, parce qu'effectivement il est gauche dans tous ses contrôles et autres, mais il apporte
c'est
un impact.
C'est 5 buts en 6 matchs.
Et oui, mais c'est quelqu'un d'important pour cette équipe, et il vient marquer le deuxième but à la 88e. Derrière, 90e minute de jeu, Kimpembe fait n'importe quoi une nouvelle fois devant sa défense centrale à 20 mètres du but. Coup franc pour cette équipe de Metz, et barre transversale sur le coup franc de Jouffre. Heureusement, ça fait pas barre rentrante, et derrière, un moment de magie qu'on aime dans le football, mais c'est du grand n'importe quoi. Le PSG n'a pas le droit de faire ce genre de match. Eh bien, écoutez, Blaise Matuidi sur un centre côté droit de Javier Pastore. Blaise Matuidi s'envole dans les airs, prend le dessus sur Guido Milan, qui est pourtant une armoire à glace, et va se matcher cette tête avec un gardien qui reste un petit peu planté sur ses appuis. Ça part à droite. Et effusion du côté du Paris Saint-Germain. Très bien, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
À la manière de fêter le but, on a vu qu'il y avait un énorme soulagement,
Naïm. Un gros soulagement, parce que si
94e
tu lâches 2 points à Saint-Symphorien, à Metz qui est très mal classé, après avoir mené 2-0, là tu fais une croix sur le titre. Parce que
ça a désespéré Philippe Zegraf, à cette 94e minute.
Monaco a 3 points, un match en moins, 3 points d'avance, en plus 5 points d'avance, une différence de but astronomique, le titre, tu fais une croix dessus. Alors je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Bruno sur l'aspect gestion du PSG, c'est pas professionnel, tout ce qu'on veut, mais moi j'ai quand même une autre lecture de ce match. Je pense que ce genre de scénario, ça peut justement créer un truc pour la fin de saison, ça ressemble quand même un peu à la chance du champion. Et on dit toujours à chaque fois, généralement, l'équipe qui va être championne, elle a de la chance sur certains matchs. Moi, je me rappelle en 2012 de Marseille ou de Lille en 2011 qui avait gagné des matchs ric-rac comme ça. Ce genre de match.
Montpellier aussi.
Montpellier, ça peut permettre, comme ça, de créer une dynamique, de se dire, si avec un match aussi, une deuxième mi-temps aussi pourrie, tu prends un coup franc à la 90e, t'arrives à marquer à la 93e, Blaise Matuidi en plus, qui est quand même pas celui qui marque le plus, ça peut justement créer un truc dans les têtes. Maintenant, ce que le Paris Saint-Germain doit tirer comme leçon, si on peut encore tirer des leçons quand on est mi-avril, pratiquement même plus de mi-avril, c'est essayer vraiment d'arrêter de gérer ces matchs. Le PSG ne sait pas le faire, n'a pas les joueurs pour le faire.
Alejandro, on se dirait presque qu'il le mérite pas quand même d'y arriver, parce qu'il y a beaucoup de fragilité depuis le début de la saison. Il se laisse porter justement parfois plus par la chance que par la volonté.
Oui, je me demande si au PSG on n'a pas commencé un peu trop tôt à l'intersaison, à savoir qui va partir, qui va arriver, que va-t-il se passer, et à ces jeux-là, on risque la catastrophe et peut-être de tout remettre en cause.
Et je rebondis, Alejandro, je me permets de dire, un garçon comme Lucas, ça se sent complètement dans toutes ses prises de balles, dans tout ce qu'il fait sur un terrain. On comprend qu'un dirigeant est à lui dire, écoute mon petit Lucas, tu sais quoi, fin de saison, l'aventure elle est terminée. On sent qu'effectivement, il y a un
plus concerné.
Cela dit, la chance du champion, Monaco l'a aussi.
Oui
c'est ça
vrai.
Le truc. C'est que Monaco, ça fait plusieurs fois qu'ils mettent pas un pied devant l'autre et qu'ils arrivent à l'arracher, à remporter leur match. Donc voilà, moi je pense que beaucoup de choses vont dépendre du OL Monaco dimanche. Ouais, c'est sûr que si
et
Monaco
match de ce soir aussi.
Parce que s'ils se qualifient en demi-finale, hier Carlos Bianchi nous prédisait que Monaco ne serait pas champion s'il passait en demi-finale.
Parce que Paris a quand même un calendrier plus sympa que celui de Monaco, hein, vraiment.
Mais ils sont un peu en retard.
Mais juste pour dire, il faut quand même noter, voilà, et là c'est le côté un peu pro-PSG qui revient. Hein. Ouais, il y a un Nice-Paris Saint-Germain, ouais. Mais pour le côté pro-PSG qui remonte, je voudrais juste dire quand même que ce Paris Saint-Germain, depuis le 21 décembre 2016, en championnat, c'est 11 victoires et 2 matchs nuls. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas brillant. Effectivement, voilà. Mais c'est une équipe qui est quand même là. Et qui, en plus, on en discutait avec Maxwell, il y a pas très longtemps. C'est une équipe qui est prête pour ce genre de truc. C'est dans ce groupe, ils adorent ça, le Money Time. Je rappelle qu'il y a, la saison dernière, ils le font finish. Bon, ça se termine à la 35 ou 36e. Mais ils y vont à l'arrache et ils passent Il y a deux ans, ils passent la tête à deux journées de la fin. Donc ils sont capables de ça et ils sont prêts à ça. Et c'est ce que je reviens sur ce que j'ai dit sur Monaco tout à l'heure. Est-ce que Monaco est prêt à ce sprint final? Et je vous rappelle qu'il y a une deuxième chance de remettre un petit coup de poing sur la tête à Monaco en demi-finale de Coupe de France.
Exactement.
Dans une semaine.
Mais là, on verra effectivement en fonction des résultats de Ligue des Champions, hein, de cette équipe de Monaco, ça peut changer beaucoup de choses. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à ce Radio Foot International. Pensez à nous de temps en temps, Bruno, revenez là.
Avec grand plaisir, Annie. Je viendrai vous fêter le titre du Paris Saint-Germain avec un point d'avance sur Monaco.
Venez quand vous voulez. Nous, on vous donne rendez-vous avec David Finzel et Julien Lingue, en sortie de match. Il y aura aussi Christophe Jousset et puis Eric Mamrut qui est au stade Louis II et qui sera aussi en direct dans Radio Foot International. Merci à tous, à tout à l'heure.